culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditeur, auditrice, bonjour. Si tu le veux bien, je m'invite là où tu es pour passer un petit moment avec toi. D'ailleurs, je ne suis pas seul car nous avons une petite équipe qui venons régulièrement dans les maisons, dans les voitures, dans tes oreillettes afin que l'on puisse ensemble découvrir la Bible et les trésors qui s'y cachent. J'avais presque envie de te souhaiter la bienvenue, mais comme on s'invite chez toi, je peux te dire que merci beaucoup de nous avoir invités. D'ailleurs, je te présente Marina et Stéphane. Bonjour.
Bonjour.
Hello.
Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Pierre Vadimont. Alors Pierre, tu es infirmier en psychiatrie, c'est ça? Et tu fréquentes l'église de Renan. Mm-hmm. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose d'autre à ta présentation?
Ce que je peux dire de plus, c'est que je suis marié, que j'ai un enfant, une grande fille, et que je suis aussi un grand-père d'un petit garçon.
Wow. Bah alors, félicitations.
Merci.
C'est super. Et que vas-tu nous partager aujourd'hui?
Je vais aborder un thème que je trouve facile, mais en même temps qui serait peut-être compliqué à expliquer. C'est le thème du bien par le bien.
Du bien par le bien.
Voilà.
Ok. Sympa.
J'aime faire bien le bien par le bien.
Ok. Eh bien, que l'Esprit te guide, Pierre.
Merci.
Et que nous soyons pleinement accompagnés par lui aussi, afin qu'il nous dévoile ce qu'il veut nous révéler aujourd'hui. Alors nous voilà dans notre chronique habituelle de début du culte, dans Dieu dans ma semaine, une chronique concrète où nous expérimentons avec Dieu. Alors Marina, que souhaites-tu nous partager?
Alors, je vais vous raconter une petite expérience qui s'est passée durant mes vacances d'été. Déjà te dire peut-être, cher auditeur, et ici aussi dans ce studio, que j'ai, mais si, toujours beaucoup de chance. Alors, je dis toujours chance avec des guillemets, on se comprendra après. Et ce jour-là, avec mon conjoint, mon fils, direction le port de pêche, on va aller faire une petite balade en bateau. Et fidèle à ma chance, je fais quelques pas et je tombe sur un magnifique billet de 20 euros. Même pas plié, tout neuf, apparemment tout droit de sortie de la banque. Hein. Forcément génial, problème, ce n'est pas le mien. Et a priori, personne autour qui semble réclamer. Alors je le prends, mon mari sidéré, non mais c'est toujours qu'à toi que ça arrive cette histoire, et c'est vrai, et j'en rigole tout le temps, et j'ajoute à mon mari une petite phrase qui m'est venue comme ça, tu sais la Bible dit « sois fidèle dans les petites choses, il t'en sera confié beaucoup ». Et c'est vrai que c'est ce que j'ai appris tout au long de ma vie, à être fidèle dans des petites choses, c'est apprendre à honorer mon travail, à honorer mon investissement, à respecter mon employeur, etc., etc., à utiliser avec sagesse aussi le salaire que Dieu me donne. Bref. Et donc, 20 euros qui me tombent aux pieds, pour moi, c'est pas du hasard. Donc, la chance, évidemment, entre guillemets, hein, pour moi, ça vient de Dieu. Et je me dis, mais waouh, un plan de Dieu pour ma journée. Alors là, excellent. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me dis, Seigneur, c'est sûr que tu as un petit projet pour ces sous, là. Ça va servir à quelqu'un. Qui veux-tu que je bénisse? Alors, ça devient soudain une journée tout à fait palpitante.
C'est sûr.
Il va se passer quelque chose aujourd'hui et je vais être utile à quelqu'un, à qui probablement il manque en tout cas 20 euros. Bon. Alors, je suis super attentive toute la journée. Aux aguets pendant que mon mari ronge son frein et me propose mille et une idées pour dépenser cet argent en glace et autres petits plaisirs très très sympas mais très futiles aussi de vacances. En tout cas, moi, j'ai soif de bien autre chose que de vivre ces petits plaisirs de glace. La journée passe et puis je suis presque déçue parce que rien, je me dis, bah mince, et j'ai raté le signal là, il y a un truc que j'ai pas perçu. J'ai pas croisé quelqu'un qui semblait avoir besoin de 20 euros, pourtant j'ai été super attentive. J'ai dû rater quelque chose. Alors pour mon mari, l'affaire, hein, elle est réglée.
Forcément.
Hein, bon, bah écoute, demain, cet argent dans le portefeuille commun.
C'est ça.
Et puis on s'achètera bien des glaces, non? Non. Ma petite phrase de la Bible qui revient. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'en confiera des plus grandes. Ça me lâche pas. C'est sous, on n'en avait pas besoin. On avait prévu des vacances, on avait notre petit budget de vacances, ces 20 euros sont arrivés miraculeusement, mais j'en ai pas besoin. Je pourrais en avoir envie, mais c'était pas un besoin. Et j'avais envie de m'inscrire dans « qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse de tout ça ?» Alors, finalement, dans toute cette histoire, ces 20 euros sont toujours dans ma poche. J'attends, je me dis « Seigneur, c'est quelque part, tu vas y répondre. Il y aura un besoin à un moment donné qui va combler ce... auquel, en tout cas, ces 20 euros vont pouvoir combler. Mais voilà, finalement, ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est de reconnaître les regards qu'on peut avoir différents sur une situation. Pour moi, assurément, il y a un plan de Dieu, quelque chose de super palpitant. Je vais pouvoir servir Dieu au travers de cet argent que j'ai trouvé. Et puis, un autre regard qui serait un regard tout à fait concret, de se dire, ben, cet argent, tu l'as trouvé, tu peux le garder en vrai. Bien sûr, tu peux le garder, tu peux faire d'autres achats, puis après, tu peux faire... Bon. Et puis finalement, quel est le regard de Dieu sur toute cette aventure ? Je vous raconterai probablement la suite un petit peu plus tard.
Ah, super. Alors, j'aimerais t'encourager par un verset court mais efficace. D'ailleurs, c'est toi, Marina, qui me l'a soufflé. Il se trouve dans l'Ancien Testament et c'est le livre de Job au chapitre 14. Alors, si tu connais pas Job, je t'invite à lire son livre. Il parle de l'expérience d'un homme qui affronte de grandes souffrances accompagnées par Dieu. Et voici un verset qui dit « L'homme né, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » Et c'est sur lui que tu as ouvert l'œil. » Il décrit l'homme avec un grand H comme presque insignifiant, une vie courte, sans cesse agitée. Alors venant d'un homme qui a souffert comme Job, ça peut presque se comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré que l'humain ait une vie courte, malgré l'humain sans cesse agité, qu'il fuit, qu'il disparaît comme une ombre, Job remarque que Dieu, lui, pointe son œil sur ces gens-là. Il remarque que Dieu ouvre l'œil sur la personne qui pense que sa vie ne vaut rien. Alors, qu'est-ce que soit la situation que tu traverses, sois encouragé. Dieu te voit et il agit pour toi.
Bienvenue dans la chronique Louange en musique de notre culte espoir. On va commencer par un chant, Maintenant je vis, qui est interprété par des amis, Mirella, Kant, Steven. Il s'écoute d'ailleurs assez bien au réveil, je trouve, mais dans la journée, ça marche aussi. Bonne écoute.
Tout pour moi et plus encore. se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant, je vis. Maintenant, je vis. Oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté, tu portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Vois le soleil. Tu fais toutes choses nouvelles.
Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis.
Le chant suivant, Mon Espérance, est d'un groupe qu'on aime bien, Occulte Espoir, à savoir Souffle Nouveau.
Yes.
Une strophe de ce chant dit « Si Dieu est au contrôle de ma vie, je n'ai plus à me soucier du lendemain. Sa parole est une lampe à mes pieds, la lumière qui éclaire mon chemin. Je te souhaite, pour ta vie, de rencontrer ce Dieu. »
Celle que j'étais, tout ce qui m'enchaînait est dans le passé. Je ne vois plus aucun intérêt d'y retourner et de m'y enfermer. Car maintenant,
je sais que je n'avance pas seul.
Maintenant, mon passé
ne décide pas de mon présent.
Même les souffrances temps présent ne saurait être comparé à la gloire qui est à venir, qui en nous se révélera. Même les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire qui est cet avenir qui en nous se révélera. Si Dieu est au contrôle de ma vie, je n'ai plus à me soucier du lendemain. Sa parole est une lampe à mes pieds, la lumière qui éclaire mon chemin. Et maintenant,
je sais que je n'avance pas seul.
Maintenant mon passé
est présent, même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui en nous se révèle.
Ou à la chance, c'est en toi que je place ma foi et mon espérance, car il n'est d'affliction que ta main ne permette. Dieu de gloire, Seigneur de ma vie à jamais.
Je ne crois pas au hasard ou à la chance, c'est en toi que je place ma foi et mon espérance,
car il n'est d'affliction,
car il n'est d'affliction.
Ta main ne
Seigneur de ma vie à jamais. Ta la la ta la, ta la la la, ta la ta la ta la.
L'hymne de mon espérance.
Ta la la ta la, ta la la la, ta la ta la ta la.
Le chant de ma victoire.
Nous voilà dans la chronique Dieu agit, une chronique axée sur le témoignage authentique. Alors Stéphane, la parole est à toi.
Cette semaine, je suis avec Sébastien, qui aimerait nous témoigner le pourquoi la mission est aussi importante pour lui.
Tout d'abord, merci Stéphane pour ce moment de partage. Merci à vous qui m'écoutez. Alors, pourquoi c'est important la mission pour moi? Parce que j'ai été le fruit d'une missionnaire qui est arrivée ici, et qui a pu me transmettre le message de Dieu, qui est si important aujourd'hui dans ma vie, et qui a bouleversé toute ma vie. Alors aujourd'hui, je suis un fruit de quelqu'un qui est venu, qui venait d'un autre pays, qui a transmis les bonnes nouvelles, et aujourd'hui, je veux faire la même chose, je veux transmettre cette bonne nouvelle à d'autres personnes.
As-tu déjà participé à une mission?
On a déjà fait plusieurs missions. Avec mon épouse, on est déjà parti au Cambodge, Kyrgyzstan, le Brésil, et dans un futur prochain, on veut faire vivre que de la mission. On a vu qu'il y a tellement de projets, on a vu que le monde a tellement besoin de connaître qui est Jésus, qui est ce Dieu qu'on est en train de servir, qu'on veut mettre nos vies dans la main de Dieu et le dire qu'on est là, qu'il peut se servir de nous.
Je pense, de participer à une mission, il peut y avoir plusieurs défis. Quels ont été les défis?
Alors, on a eu toujours quelques défis, mais un des plus grands défis a été la récolte de fonds, parce qu'il faut qu'on récolte un max de fonds dans un court terme de temps. Et après, c'est de le pouvoir partager de la meilleure forme en aidant un maximum de personnes. Et... une autre chose aussi qui a été un grand défi, c'est souvent quand on était dans les rues, de recevoir des noms des personnes. Des fois, on était ignorés. Et aujourd'hui, je comprends le nom des personnes ou pourquoi les gens font ça.
Donc, on a vu qu'il y a eu les défis, les fonds, tout ça. est-ce qu'il y a aussi des bénéfices? Bien sûr, on sait qu'il y a des bénéfices. Et est-ce que ces bénéfices-là t'ont rapproché de Dieu?
Dans une de nos sorties qu'on a fait, j'ai croisé quelqu'un qui était, elle gagnait bien sa vie, mais elle était vide à l'intérieur et elle a abandonné son travail pour pouvoir rechercher quelque chose. Et elle est partie en Amérique latine voyager pendant quelques mois. Et au bout de, je pense qu'un mois de voyage, elle s'est arrêtée dans un petit foyer où il y avait des mères qui laissaient leurs gosses là-bas et puis elle partait au travail. Et elle s'est arrêtée là-bas, elle a commencé à cuisiner, à prendre soin de ses gens. Et à un bout d'un moment, elle disait qu'elle voulait juste rester quelques semaines là-bas. Elle a stoppé son voyage là-bas et les mois qu'elle devait voyager en Amérique latine, elle est restée là-bas et elle a décidé d'aider les gens. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire ce travail et elle a compris que, en fait, son réel propos et quelque chose qui l'a rempli, cette satisfaction d'aider son prochain, de se dévouer pour son prochain. Et avec la mission, ça, c'est un des bénéfices que j'ai pu voir. C'est la même chose, c'est que quand on arrête de se focaliser sur nous, qu'on veut tout pour nous, je veux le dernier iPhone, je veux la dernière voiture, je veux toutes les choses. Non, ça nous remplit pas. Et malheureusement, les gens n'ont pas encore compris tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup transformé et que Dieu a mis en moi cette bonne chose, c'est que les biens matériels ne me remplissent pas du tout, mais que c'est quand on se dévoue au prochain et qu'on travaille pour son prochain, qu'on aime son prochain. Et ainsi que une autre chose, c'est que on voit tout au long des missions qu'on a fait, on voit la main de Dieu, on sent la présence de Dieu, parce que on voit que on ressent qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. On a tout le temps des attaques spirituelles tout au long des missions parce que on a un ennemi, comme Paul il dit. Cet ennemi, il fait tout pour frustrer les plans de Dieu, mais on a un Dieu qui est plus puissant et on a un Dieu qui prend soin de nous. Et tout au long de ces missions qu'on a fait, on a toujours senti cette pression, toutes des choses qui voulaient pas donner juste. Et au bout du compte, on a pu aider le maximum de personnes, toujours avec Dieu. Et une autre chose, c'est cette question de dépendance de Dieu. Aujourd'hui, je comprends et je ressens cette dépendance de Dieu après toute cette mission, parce que on voit que toutes les bonnes choses qui se sont passées ne sont pas nos fruits à nous, mais c'est les fruits que l'Esprit Saint met dans notre vie et qui fait en sorte qu'on puisse passer à d'autres personnes.
Merci beaucoup Sébastien. Et un petit message pour nos auditeurs.
Alors, pour finaliser, je vais vous raconter alors une histoire. Celle-ci est de la mère Thérèse. Une fois, elle était en train de soigner des lépreux et un riche voulait faire une offrande. Et ce riche est allé en direction d'elle. Elle était dans le sous-sol en train de nettoyer un lépreux. Et dès qu'il commence à descendre, des fortes odeurs venaient. Et tellement fortes qu'il a dit, dès qu'il est arrivé en bas, il a dit « Ah, je pourrais pas faire tout ce travail pour l'argent du monde. » Et elle a dit « Moi non plus, je le fais pas pour tout l'argent du monde. » Il a regardé, il a demandé pourquoi. Et elle a répondu « C'était par amour. » Du coup, le riche s'est posé plein de questions dans sa tête. Et le lépreux l'a regardé, il a dit « Mais mère, c'est qui va prendre soin de nous ?» Et elle a dit « Dieu enverra quelqu'un d'inutile comme moi. Et voici le pourquoi et le comment. Aujourd'hui, je veux être missionnaire et je vous invite à être cette personne inutile que Dieu va utiliser pour sauver d'autres personnes et d'aimer d'autres personnes. »
Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage. Alors Pierre, le bien par le bien, nous t'écoutons.
Merci. Le bien par le bien. En fait, c'est un thème qui m'est venu à travers justement ma pratique d'infirmier. Je m'occupe des patients et très souvent, mon métier, c'est d'aller vers eux justement pour leur faire du bien. Mais parfois, je me suis rendu compte qu'on pose des actes qui ont un double impact. il y a un impact positif et un impact négatif. On appelle ça en fait une sorte de dichotomie, c'est-à-dire qu'on vient pour faire le bien, mais l'action du bien peut engendrer quelque chose de négatif pour la personne. Donc j'ai réfléchi sur ce thème, avec l'aide de Dieu bien sûr, et je crois que j'ai quelques pistes de réflexion à proposer aux auditeurs, à vous aussi qui m'écoutez, et aussi à l'église à laquelle j'appartiens. En fait, pour comprendre le thème du bien par le bien, il faut poser cette question. C'est quoi le bien? Le bien, c'est une action qu'on pose pour régler un problème. Donc, toute action qu'on pose pour régler un problème doit améliorer le problème en question. Mais je me suis rendu compte, à cause de cette dichotomie que je viens de signaler avec vous, qu'on peut aller encore plus loin. Parce que le véritable bien, c'est une action qu'on pose, c'est une action de grâce qu'on pose. En tout cas, c'est comme ça qu'on doit le comprendre quand on voit Jésus agir. C'est une action de grâce qu'on pose qui concourt toujours au bien, qui n'engendre jamais quelque chose de négatif. Alors, j'ai creusé un petit peu l'histoire pour comprendre d'où ça peut venir, cette histoire de bien qui est proposée pour faire du bien, mais qui en même temps peut engendrer quelque chose de négatif. Et je suis remonté jusqu'au 15e siècle. Au 15e siècle, il y a un monsieur qu'on connaît tous très bien, qui s'appelle Machiavel. Machiavel, c'est un homme de son temps qui était un peu un homme politique à Florence, à l'époque où la famille Médicis régnait sur l'Italie. Et cet homme s'est retrouvé en face de catastrophes auxquelles il voulait, à laquelle il voulait donner des réponses. Donc, il a cherché à réfléchir pour trouver les réponses pour aider les gens. Alors, quand je dis catastrophe, c'est des choses comme la famine, les crues qui dévastent, enfin, vraiment des choses très, très concrètes qui posaient des problèmes aux dirigeants, mais qui posaient des problèmes aussi à la population. Donc, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup lu pour essayer de résoudre ces problèmes. En fait, il s'est tourné vers le christianisme et il a compris quelque chose par rapport au texte biblique qui datait déjà de saint Augustin, où on disait que le mal était un bien amoindri. C'est-à-dire que le mal peut être utilisé parfois à bon escient, quelque chose comme ça. Et lorsqu'il a vraiment, il s'est tourné vers un petit peu la religion pour répondre à ses problèmes, il a eu un petit peu cette intuition de ce que les chrétiens pensent, c'est que la résolution des problèmes de ce monde aujourd'hui, c'est pour plus tard. C'est pour une autre terre. C'est un petit peu ce qu'on attend aujourd'hui. On attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Machiavel a dit, finalement, les chrétiens ont désarmé le ciel. Donc, pour agir contre le mal, on va prendre ce qu'il y a à notre disposition, c'est-à-dire le mal. Donc, on va faire du mal, ce mal qui est le moindre bien, une arme pour essayer de résoudre les problèmes auxquels le monde a à faire face. Et ça m'a beaucoup interpellé, parce qu'il m'a semblé que Jésus dit un petit peu le contraire. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsqu'un homme est venu pour qu'on guérisse son fils, il a amené donc aux disciples de Jésus son fils qui était malade, et les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Et Jésus, lorsqu'il sortait donc de la montagne des Oliviers, c'est ce que dit le texte biblique, lorsqu'il a aperçu cette scène, il s'est retourné vers les disciples. Enfin, le monsieur lui a expliqué un petit peu ce qui se passait. Et Jésus s'est retourné vers ses disciples il les a un petit peu invectivés en disant « Race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et on voit à travers cette histoire que l'incapacité des enfants de Dieu, des disciples en l'occurrence, de répondre à un problème précis pour quelqu'un. Et on voit cet homme qui a répondu « Viens au secours de mon manque de foi. » Finalement, il n'a pas demandé à Dieu de résoudre le problème des disciples, d'accorder plus de foi aux disciples pour faire le bien, mais il a demandé à Dieu de venir au secours de son manque de foi. On voit que parfois, quand on veut faire du bien, ça révèle deux choses. Ça révèle vers qui on se tourne pour, comment dire, réconcilier notre envie de Dieu, finalement, notre croyance, notre foi. Et on voit aussi quelle est la conséquence que peut avoir donc l'action qui est nécessaire pour résoudre le problème. Donc cette histoire m'a beaucoup frappé, parce qu'on dit de Machiavel qu'il est le réformateur de ce siècle. Et généralement, il est admis que tous les politiciens qui ont à résoudre des problèmes s'inspirent de Machiavel. Ça, c'est assez étonnant. En lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'on arrive à... La question doit être un petit peu inversée. Dieu est-il ce qu'il dit qu'il est? Dans le psaume 68, Dieu dit qu'il est le père des orphelins. Donc, on pourrait penser que c'est à lui, en tant que père des orphelins, de résoudre le problème du mal, le problème de la faim, par exemple, le problème de la couverture, le problème des habits pour les orphelins. Or, il semble qu'il ne fait rien. Et on voit dans le texte de Ézéchiel 16, verset 49, où Dieu s'invective contre une ville qu'on appelle Sodome, et il va dire que cette ville, je vais la détruire, parce que c'est une ville qui vit dans l'abondance, et qui dans une insouciante sécurité, et qui ne soutient pas la main du pauvre, du malheureux et de l'indigent. Et Dieu décide de détruire cette ville. Alors là, il y a un paradoxe quand même. Comment Dieu peut être le père des orphelins et détruire une ville qui ne s'occupe pas d'eux? Est-ce que ce n'était pas à lui de s'en occuper? Et très souvent, là, il y a une leçon très importante, à mon avis, à saisir. C'est qu'on voit Dieu qui regarde la terre et qui dit « Je ne trouve personne pour secourir la main des malheureux et des indigents. » Et si vous voyez le psaume 53, on voit un homme qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Donc on a l'impression d'hommes qui ont besoin de Dieu pour résoudre les problèmes, et on a l'impression depuis le ciel que Dieu cherche sur la terre des hommes pour résoudre des problèmes. Donc si on ne sort pas de ces deux regards parallèle, on a l'impression, on peut faire comme Machiavel et dire finalement, le ciel est désarmé, le ciel n'agit pas. Et la personne du malheureux et de l'indigent, c'est vraiment une image très spécifique à comprendre pour nous qui sommes chrétiens quelque part. Le malheureux et l'indigent, très souvent, on le voit comme, en tout cas de nos jours, comme quelqu'un qui a un petit peu perdu sa dignité, mais par le malheur finalement, par la fatalité, ou alors par un manque d'investissement de sa part. Il n'a pas bien travaillé à l'école, il a tout à sa disposition, il a des bibliothèques, il a tout à sa disposition pour bien faire, or le malheur lui arrive. En fait, si on lit bien les Écritures, le mot qui traduit « malheureux » et « indigent » dans la Bible réfère à la nudité. C'est quelqu'un qui est nu. Et la question de la nudité renvoie à la question de la destitution. C'est-à-dire que tu te retrouves nu, indigent, malheureux, pauvre, faible, tout ce vocabulaire, parce que tu as été destitué. Ta nudité, c'est une destitution. Quand on dit destitué, il faut bien comprendre qu'il y a celui qui destitue et celui qui est destitué. Donc, quelque part, le destitué, c'est un peu finalement tous les hommes, mais particulièrement quand même, on sait qu'il y a des malheureux et des hommes riches. C'est ce que révèle un petit peu la déclaration de Dieu contre Sodome. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans une insouciante sécurité, et pourtant le pauvre, il meurt sans que personne ne soutienne sa main. Et là, Dieu, il est un petit peu très en colère parce qu'il va détruire Sodome à cause de ça. Donc le paradoxe de Dieu père des orphelins, c'est un petit peu pour briser ces deux regards parallèles, c'est que Dieu réoriente nous notre regard sur la personne du pauvre, du malheureux et de l'indigent sur la terre. Finalement, la personne du malheureux, de l'indigent et du pauvre, c'est le lieu où celui qui veut faire le bien se réconcilie avec Dieu, et celui qui a besoin d'être secouru à travers le secours qu'on lui apporte montre la présence de Dieu dans ce monde. En fait, la présence de Dieu dans ce monde, si on veut qu'il soit vrai, si on veut qu'elle soit vraiment éclatante, on doit observer deux choses. La manière dont on s'occupe des pauvres, sachant que tous les hommes veulent s'occuper des pauvres, c'est un peu ce qu'on a vu avec Machiavel. Mais il y a une manière différente qui est d'apporter ce bien uniquement par le bien, uniquement en ne mettant plus de fardeau sur les gens. Dans notre société actuelle, si on veut aider quelqu'un, on va lui dire « Je t'aide, mais tu dois faire ceci. Je t'aide, mais tu dois faire cela. Je t'aide, mais on va faire appel à ta responsabilité propre. » Avec Jésus, en fait, il ne fait pas appel à notre responsabilité propre. Il nous donne tout ce dont on a besoin pour être vêtu. C'est ce qui se passe en Éden. Il enlève la feuille qui nous servait pour nous couvrir. La feuille couvre la nudité, mais c'est pas viable. On n'a pas, on a la feuille, mais on est toujours dans la honte. On a toujours peur. Par contre, il y a un deuxième habit qui est l'habit qui nous revêt lui, c'est-à-dire un bien uniquement par le bien. Et ce bien-là nous restaure totalement, nous restaure complètement sans rajouter de charges supplémentaires dans nos vies. Et cette question de nous occuper des pauvres, des orphelins en faisant le bien uniquement par le bien, c'est, ça révèle deux choses. Ça révèle, pour celui qui croit, qui il est. Est-ce qu'il est vraiment un vrai disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui soigne selon la miséricorde, c'est-à-dire sans mettre de fardeau supplémentaire. Et ça révèle qui est Dieu. Parce qu'on voit que Dieu, lorsqu'il a envie d'agir sur la terre, il passe toujours par des hommes. Vous avez vu, hein? Par exemple, quand il a voulu restaurer Agar, qui était perdue avec son enfant, qui n'avait plus à boire, Dieu envoie un ange. Il n'agit pas comme ça, avec un miracle, comme si, par exemple, tu savais exactement quoi faire des 20 euros, par exemple. Mm-hmm. Non, tu attends un signe quelque part. Et Dieu, il a toujours des messagers qui sont pour lui des signes. Si nous voulons faire le bien par le bien, c'est-à-dire le bien uniquement en menant des actions de grâce dans le monde, nous sommes appelés en même temps à montrer deux choses. Que nous adorons le vrai Dieu, parce que nous avons confiance en lui, parce qu'il nous demande de le faire et on le fait, et celui qui reçoit le bien peut témoigner à nouveau de ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc c'est toute l'explication que j'essaie de porter depuis quelque temps à travers mon métier, c'est que on doit apprendre à faire le bien par le bien. Il y a je crois que c'est un écrivain, je ne sais pas s'il est philosophe, il dit que pour sortir du problème de Machiavel, il faudrait que des gens reprennent à leur compte le bien. Et il disait que si on pouvait amener à bien la résolution du mal, aussi bien avec le bien que Machiavel nous a appris à le faire avec le mal, on montrerait qu'on est sorti de l'empire de Machiavel. C'est-à-dire, si on a besoin d'une réforme aujourd'hui, je sais que dans notre Église, on parle souvent de réforme et de réveil. Un véritable réforme et réveil, ce serait d'apprendre à faire le bien envers les pauvres, les indigents, les malheureux, les considérer non pas comme des fainéants ou des gens qui n'ont pas été assez intelligents ou des gens qui ont tout à leur disposition mais qui n'arrivent pas, mais les considérer comme des gens qui sont des destitués. Et Dieu a un regard spécifique sur les destitués pour leur rendre dignité, honneur, sans fardeau supplémentaire. Ça, c'est la grâce pure. Tu ne le mérites pas, mais je le fais pour toi parce que tu en as besoin. Et ce que je fais pour toi rend témoignage de qui je crois. C'est un petit peu le message que je porte à travers le thème du bien par le bien. Merci.
Auditeur, auditrice, tu te trouves au culte espoir et nous venons d'entendre un partage biblique de Pierre Vadimon sur le thème du regard de Dieu sur l'humanité et de celui de l'homme finalement vers Dieu avec cette phrase qui dit le bien par le bien, faire le bien par le bien. Alors je pensais en entendant ton culte à la fresque La Création de Michel-Ange qui se trouve dans la partie centrale de la chapelle Sixtine. Mmh. Je ne sais pas si vous arrivez à vous souvenir, on a Dieu qui est au ciel, et puis il tend son bras et son doigt, et il arrive à toucher, mais vraiment, on voit qu'ils sont tellement éloignés, le doigt de l'humain, Et puis on sent vraiment cette difficulté presque à s'atteindre l'un l'autre. Dieu qui aimerait aussi nous toucher et qui parfois peut-être n'y parvient pas par nos choix de vie et autres, et nous qui aimerions tellement être touchés par Dieu, tellement l'atteindre, tellement nous rapprocher de ce Dieu. Et c'est pas toujours facile hein, de pouvoir trouver cette connexion en fait dont tu parlais hein, pour tout un tas de raisons. Alors, brillant Stéphane, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette chronique, et toi, ça te parle?
C'est le bien avec le bien. C'est vrai que j'ai en tête la phrase il faut mieux comme ça, ou mieux le pire, ou la mauvaise. On n'a jamais une mauvaise solution, ou c'est la moins pire. Mm-hmm. Donc, c'est ça parfois. C'est ça qui m'est venu à l'esprit de mm-hmm. qu'on t'a expliqué sur ma vie. Merci beaucoup, parce que je connaissais mm-hmm. ça. Vraiment, je ne connaissais pas l'histoire. Et c'est de faire le bien pour le bien, c'est-à-dire sans retour. C'est vraiment faire le bien. Et la seule, pour moi, hein, la seule manière de le faire, beaucoup de gens le font même sans être chrétiens, mais pour nous, on est croyants, c'est vraiment demander Dieu qui on peut aider. Mm-hmm. Je pense que cette piste-là, peut-être dire demander Dieu qui, comme tu as dit Marina dans ton témoignage aussi, c'est qui je peux aider. Et là, si on met qui je peux aider, pas comment je peux aider, comment je peux l'aider pour qu'il puisse m'aider ensuite.
C'est toujours à travers le prisme de Dieu.
Oui.
Et c'est vrai que je rejoins ce que tu dis et ce que tu as dit. Toi, tu travailles en tant qu'infirmier. Moi, je suis aide-soignant. Donc, je vois aussi vraiment le point de vue que tu as. Et c'est vrai qu'on a, tendance à vouloir souvent aider l'autre par, entre guillemets, par ce que nous, on a appris par nos propres forces, en fait, en disant, ben voilà, je te conseille de faire ça, je te conseille de faire ci. Et il n'y a rien qu'à voir quand tu surfes sur Internet, le nombre d'articles qu'il y a, 15 façons de se sentir mieux, 15 façons d'être mieux en faisant ci, en faisant ça. Et finalement, ben, moi, si j'ai envie d'aider l'autre, et ça rejoint ce que tu as dit, bah, c'est parce que j'ai cette expérience avec Dieu, parce que je chemine avec Dieu, et en fait, il révèle mon identité à travers lui, en fait. Et du coup, bah, ce qu'il va révéler à travers moi, bah, ça va me permettre d'aider l'indigent, le pauvre, et d'être dans cette démarche-là que tu disais. Donc moi, ça me parle plutôt bien, ouais. Mmh.
C'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que très souvent, on a ce don et ce contre-don. Hein. Je te donne quelque chose, je me rabaisse jusqu'à toi et je te transmets quelque chose. Mais alors, par contre, en échange, j'ai besoin d'un merci, j'ai besoin de la reconnaissance, j'ai besoin de... Et là, tu es en train de nous apprendre, justement, Pierre, que la Bible nous dit, réveillez-vous, quoi, c'est pas ça. Ce que Jésus a fait et ce qu'il a démontré dans tout son parcours, c'est tellement d'amour, et c'est restituer l'autre sans contre-don. Et ça, c'est un sacré apprentissage.
Oui. Et si on fait ça, quand on lit l'Épître aux Hébreux, ça nous ouvre tout de suite la porte du ciel, en fait. C'est-à-dire que l'action qu'on fait envers celui qui a besoin sans
l'Épître aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament ?
Dans le Nouveau Testament, okay. Oui. L'action qu'on pose envers quelqu'un sans lui demander quelque chose en contrepartie, ça accomplit ce qu'on appelle l'Évangile. Et Dieu, Jésus, très souvent nous met à l'épreuve par rapport à ça. Nous, on est dans une société qui nous a appris ça. On fait le bien tant bien que mal. Vous connaissez l'expression.
On la connaît, c'est
bien. On agit tant bien que mal. Ben, c'est comme si vous disiez que Dieu n'existe pas, finalement, quelque part. Parce que Jésus a très souvent mis ses disciples en porte-à-faux par rapport à ça. Rappelez-vous, quand il y avait des gens qui avaient faim, il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui ont faim? Et le texte nous dit, il disait ça pour les mettre à l'épreuve. Et ils ont dit, ah, on n'a pas assez d'argent, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, mais vous ne comprenez pas les leçons. Vous ne savez pas qui je suis? Faites-les asseoir et puis donnez-moi les deux pains et cinq poissons que vous avez et on va faire. Donc c'est toujours ça que Dieu nous demande. Ni de nous mettre à mal pour faire le bien, ni de laisser les autres dans la difficulté parce qu'on n'a pas les moyens de lui faire du bien. C'est ça la différence entre Yahvé, je dirais, Yahvé et le Dieu de ce monde. Yahvé, notre Dieu, il est capable de faire des choses que les autres dieux ne peuvent pas faire. Yahvé, c'est Dieu finalement.
C'est ça, oui. Il y a un texte aussi dans la Bible qui dit que Dieu promet, il nous dit d'abord que c'est Satan qui vient, donc l'ennemi, hein, qui vient voler, détruire, etc. Et puis Dieu vient aussi pour restaurer, redonner tout ça. Redonner, c'est un texte, je crois, d'Osée ou Joël qui parle de ça, dans l'Ancien Testament encore, hein, d'ailleurs, et qui dit que Dieu est là pour te redonner ce qui a été détruit, te redonner ce qui a été volé. Et finalement, c'est une restitution dont tu parlais tout à l'heure. Hein. C'est beau, hein?
Avec le texte dans la Genèse aussi, cette restitution de... Finalement, c'est pas... dans le Jardin d'Éden, c'est pas cette feuille que moi-même je me procure, mais ça c'est pareil, c'est nos propres moyens, on se dit que c'est peut-être bien, bah voilà, c'est notre façon, mais finalement c'est Dieu qui te fournit, qui te restaure, et c'est lui qui va te fournir pour être avec lui, pour le suivre.
Et on doit suivre l'exemple de Jésus, lui il nous a tout donné sans rien demander à l'entour, même ce que parfois on veut pas, on veut pas, mais lui quand même nous a donné cette grâce, comme tu as parlé, cette grâce nous a donné, nous a offerte, c'est gratuit, sans rien en retour.
Ouais.
Merci, c'est toujours riche de nous nourrir, hein, du regard de l'autre. Merci en tout cas pour cet échange. Et toi, auditeur, et toi, auditrice, quelle richesse as-tu déniché de ce partage biblique ?
Nous voilà dans la chronique Dieu dans les arts. Oui, parce que Dieu est évidemment le premier artiste, mais il nous comble de dons et de talents en tant qu'humain, ce qui nous permet d'élever aussi sa gloire. Stéphane, quel artiste souhaites-tu nous présenter aujourd'hui ?
Donc cette semaine, dans Dieu dans les arts, j'aimerais présenter un homme qui a choisi d'écouter l'appel de Dieu, vraiment faire le bien par le bien. On se trouve son histoire dans un livre qui s'appelle « Dieu pourvoira la vie de George Müller », écrit par Irène Howatt. Donc ce livre raconte vraiment la vie de George Müller. Voici un petit préface du livre, hein, comme ça vous pouvez avoir l'envie de le lire.
Très bien.
Donc George Müller, c'est un des plus grands philanthropes anglais du 19e siècle. Donc il est né en 1805 en Allemagne, donc c'est un Allemand, mais après il a choisi de faire des études de théologie vraiment en Angleterre, donc il a vécu là-bas. Il est mort en 1898, donc presque 100 ans qu'il a vécu. Donc vraiment préoccupé par le sort des orphelins, livrés eux-mêmes ou en prison, il s'est employé à héberger et nourrir et vraiment les éduquer. Plus de 10 000 d'entre eux passeraient dans ses maisons. Mais pour rien ne prédisposait ce fils de fonctionnaire prussien, frivole et dépensier. Un tel engagement, il a fut même emprisonné pour une dette à l'âge de 16 ans. Ouais. Donc vous voyez, ce n'était pas du tout prévu qu'il fasse ça. Après avoir connu Dieu... Par des amis, il est parti étudier théologie en Angleterre. Et avec ce souvenir de cette jeunesse vraiment dissimulée, permis de garder la tête froide. Vraiment, il connaît déjà toute la. Comment c'est vraiment la difficulté, tout ça. Donc, Dieu lui confie ses grandes responsabilités. Vraiment, c'est magnifique. Donc, il était pasteur, mais pour lui, il n'était pas vraiment suffisant. Là, il est fait vraiment accomplir. Ce miracle, moi je parle de miracle, c'est qu'il n'a fait aucun appel financier. Jamais il a demandé de l'argent. Vraiment, George Müller se contente de vraiment présenter ses besoins à Dieu, qui honore dans la prière de son serviteur. On estime qu'il a reçu l'équivalent, bien sûr, de l'époque, hein, si on fait aujourd'hui, 150 millions d'euros.
Wow.
Sans jamais rien demander.
Wow.
Sa devise était « Si le Seigneur le veut, nous le voulons aussi et le ferons ». Donc ce livre nous plonge vraiment dans l'Angleterre du 19e siècle, qui nous montre que Dieu a la puissance de transformer les vies, que la confiance de sa providence permet vraiment des réalisations à vie humaine qui semblent possibles. Je vais juste lire un petit passage, vraiment au moment où il a compris, après un enterrement en fait, il a vu aussi que les enfants étaient orphelins, donc là il a compris son message, et après vraiment pourquoi il voulait le faire. Donc se trouve par rapport à la page 56, il y a des enfants abandonnés à chaque coin de rue, dit Georges à son épouse. Les plus jeunes m'ont dit et les plus âgés se préoccupent de l'argent comme ils le peuvent. J'ai entendu dire qu'il y a des voleurs partout et que certains n'ont qu'en 7-8 ans. C'est vrai, beaucoup d'entre eux sont sous l'influence d'adultes qui prennent que les enfants ont volé et leur donnent rien en retour. Pourquoi y a-t-il tant d'enfants dans la rue ? Il y a toujours eu, dit Georges, mais beaucoup d'eux qui sont maintenant sont devenus orphelins à cause de l'épidémie de choléra. Marie regarde sa fille Lydia, bien au chaud, bien habillée. N'y a-t-il rien qu'ils puissent en faire pour eux ? Georges se leva. Je crois qu'aussi. Ça fait un moment que j'ai une idée dans la tête. J'imagine Marie, un orphelinat, que les héberge et leur donne une éducation chrétienne, un endroit où ils seraient en sécurité, nourris, vêtus et enseignés. Si Dieu faisait tout ça sans qu'on l'aide à faire d'appel d'argent, à collecter des fonds et à tendre la main, quel impact aura tant sur les incroyants, sur les chrétiens un peu affermis. Vous voyez que il a fait, il a chaque fois. Si vous lisez le livre, vous voyez, c'est les gens donnaient. Je peux continuer encore à lire pendant une bonne heure, mais j'aimerais juste vous laisser cette vraiment sa devise. Si le Seigneur le veut, nous le voulons aussi et le ferons.
Amen. Amen. J'aimerais t'inviter à un temps de prière au travers d'une prière du prêtre Michel Quast. Cette prière a pour titre « Seigneur, je te demande la grâce de faire consciencieusement ce que tu veux que je fasse ». Je suis sorti, Seigneur, dehors. Les hommes couraient. Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient, la rue courait, la ville courait, finalement tout le monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre de temps, pour rattraper le temps, pour gagner du temps. « Au revoir, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas le temps, je repasserai, je ne puis attendre, je n'ai pas le temps. » Je termine cette lettre car je n'ai pas le temps. J'aurais aimé vous aider, mais je n'ai pas le temps, je ne puis accepter faute de temps. Je ne peux réfléchir, je ne peux lire, je suis débordée, je n'ai pas le temps. J'aimerais prier, mais je n'ai pas le temps. Ainsi les hommes courent tous après le temps, Seigneur. Ils passent sur la terre en courant, pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés. Toi qui es hors du temps, tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre avec lui. Seigneur, j'ai le temps. J'ai tout mon temps à moi, tout le temps que tu me donnes. Les années de ma vie, les journées de ma vie, les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont toutes à moi de les remplir tranquillement, calmement, mais de les remplir toutes entières jusqu'au bord pour te les offrir et que de leur eau fade tu fasses un vin généreux comme jadis à Cana, tu fis pour les noces humaines. Je ne te demande pas aujourd'hui, Seigneur, le temps de faire ceci et puis encore cela, je te demande la grâce de faire consciencieusement dans le temps que tu me donnes ce que tu veux que je fasse. Ainsi soit-il. Amen.
Hop, 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 c'est bientôt la fin, mais il n'est pas question que tu partes sans l'action de la semaine. Alors Stéphane, que nous proposes-tu ?
Pour cette semaine, j'aimerais que tu regardes vers le ciel. Pas pour regarder le ciel ou les étoiles. Vraiment, tu peux le faire, hein, c'est très joli, mais au moins, vraiment, c'est pour voir Dieu. Comme nous avons de ce culte, que Dieu, de haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour y voir si quelqu'un qui cherche Dieu. Donc le but de cette semaine est de chercher Dieu. Demande à Dieu que tu peux faire pour lui. Quels sont ses projets pour toi? Qu'on voit quelqu'un pour que tu puisses aider. Donc faire le bien par le bien. Un bon exemple, voilà, comme Marina a dit, peut-être, vraiment je reprends ces mots, forcément les 20 euros seront utiles à quelqu'un. Donc je suis prêt à aider quelqu'un. Reste à l'écoute, les yeux rivés vers le ciel pour pouvoir être prêt à toute opportunité que Dieu nous donnera. À toi de jouer.
Eh ben merci Stéphane. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Auditeur, auditrice, sois béni dans l'expérience que tu vivras avec Dieu cette semaine. Le culte arrive à son terme. Merci de nous avoir accompagnés jusque-là. Merci Marina et Stéphane pour vos chroniques. Merci à toi, Pierre, pour ce message. Et nous te retrouverons la semaine prochaine. De quelle langue vas-tu aborder cette fois-ci ?
Donc, ce sera toujours le même thème, le bien par le bien, mais à partir d'un texte où il est dit. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu.
Ça va encore plus loin. Ok, merci. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle semaine et te dire à la semaine prochaine. Ciao!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.